Les apprentis du bien nourri. Eh bien, c'est reparti pour une journée de stage au Moulin du Bien Nourri. Au Moulin du Bien Nourri, en toute simplicité, aux côtés de Minouche et d'Hervé qui nous reçoivent, on se pose les questions les plus fondamentales. Eh oui, tout simplement. Qu'on soit aguerri, qu'on soit novice, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, il n'y a pas d'âge pour se poser et se reposer les questions les plus fondamentales. Alors quand on fait de la musique, c'est peut-être pas mal de se demander ce qu'on ressent quand on écoute. Qu'est-ce que je ressens quand j'écoute? Où ça se passe? Qui écoute? Aujourd'hui, jusqu'à 13h40 sur France Musique, dans Les Apprentis du Bien Nourri, l'écoute. Alors, on va essayer de se borner à cette question. Vous allez voir d'ailleurs que c'est pas forcément facile de se borner à une question. Enfin, tant pis pour les digressions, après tout, elles peuvent être agréables et profitables. Le tout, c'est de remettre la question sur le tapis, de remettre l'ouvrage sur le métier à tisser. On va donc être obligé d'observer, de dépasser le stade de juste c'est joli ou c'est pas joli, j'aime pas. Observons, restons ouverts. La question « qu'est-ce que je ressens quand j'écoute ?» nous oblige à être à l'écoute. On entre alors dans le monde des impressions, des sensations, de ces choses mystérieuses qu'on ne peut découvrir en soi que dans le silence intérieur, dans une attention extrême. Alors, il y a des jours où ça marche, des jours où ça marche pas, bien sûr. Aujourd'hui, d'ailleurs, pas sûr que ça marche. Mais avant de nous lancer dans le cours collectif sur l'écoute, je vous propose d'abord de découvrir Tristan. C'est un tout jeune violoncelliste de 14 ans à peu près qui est aux prises avec une sonate de Jean-Louis Duport. Alors, au Moulin du Bien Nourri, on a coutume d'hurler à table « Le porc, c'est bon quand c'est mort, quand c'est vivant, c'est dégoûtant ». Et bien là, c'est le contraire. Du porc, c'est bon quand c'est vivant. Ça va être super ça. Mais toujours tu fais... Ça, il n'y a pas besoin. Premier temps, c'est le ré. D'accord ? Et c'est en syncope sur le troisième temps. Yam, param, pa, pa, pa. Donc il ne faut pas faire... Yé, tadam, pa, pipé. Tu comprends le... Tu entends que ça donne quelque chose d'artificiel quand on fait ré, sa, sol, fa, mi, ré. Aram, pa, tam, ta, di, tim. Vas-y, l'impulsion est sur le premier temps. Ré, sa, sol. Non? Encore? Oui? Chante-le-moi.
Ta-ta-da.
Oui, mais là, tu chantes sans impulsion. Tu chantes tout plat. Ta-ta-da. Non. Ram-pa-da.
Yantara. Ta-ta-ta.
Voilà, encore?
Yantara. Ta-ta-ta.
Très bien, ça. Joue ça. Pareil, chante en même temps que tu joues. Non? C'est pas ce que tu chantes. Rechante.
Yatara,
avec,
yatara,
avec, voilà, avec l'impulsion.
Ouais. Yatara, ta, 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 ta.
Joue. Oui, très bien. Très bien. Et alors, mais tu... Tu vois, en fait, le doigté classique, ce serait ça. Ce serait depuis le début. Que tu sois à la position du pouce avec le pouce sur le la. Dans la période classique, on découvre, c'est à l'époque où on découvre qu'avec le violoncelle, on peut jouer des choses plus solistes, pas seulement accompagner les violons ou pas seulement accompagner la voix. Et du coup, la nouvelle technique, c'est ça, c'est de mettre le pouce sur la touche et du coup de pouvoir jouer dans l'aigu comme si c'était du violon. Puisque quand on met le pouce, ça fait comme le capot d'astre pour la guitare. Tu le mets là, tu le positionnes à un endroit sur la touche et après ça devient comme des cordes à vide. D'accord ? Notre pouce, c'est la même fonction. Tu mets le pouce sur la touche, ça fait capot d'astre, et puis après, tu joues avec les autres doigts comme un violoniste. D'accord ? Dans l'aigu. Et je dis comme un violoniste parce que du coup, tu peux faire 4 notes par position, alors que sur le manche, tu peux en faire que 3. Donc ça implique beaucoup plus de possibilités, plus de vélocité, etc. Donc ça, c'est une révolution dans l'histoire du violoncelle. On peut jouer plus vite et plus aigu, et donc jouer des dessus. On peut jouer des sonates, on peut jouer des concertos, on peut écrire. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette littérature qui s'est composée à ce moment-là. Alors vous avez peut-être remarqué comme il est à l'écoute de son prof, hein, mais est-ce qu'il est pour autant à l'écoute de la musique, ce Tristan? Ou encore, est-ce qu'il est à l'écoute de ce qu'il ressent? C'est pas si sûr. Parce que, bon, évidemment, quand on est môme, qu'on travaille un instrument, on s'attelle à une tâche. On exécute des tâches. On apprend à jouer, mais évidemment, on se pose pas toutes ces questions idiotes. Eh bien, moi, je la pose, la question. Ça m'intéresse de savoir ce qu'ils ressentent, ces petits, en écoutant la musique, puisqu'ils en font toute la journée. Alors, on est tous là, assis en cercle avec nos instruments. On est dans la chaufferie du moulin et chacun va essayer d'apporter sa réponse. Vous allez voir, c'est pas si évident, ils esquivent bien la question. Qu'est-ce que je ressens quand j'écoute? Alors ça va être valable autant pour celui qui joue que celui qui écoute, bien sûr, hein. Qu'est-ce que je ressens quand j'écoute? Rien. Allez, Alexis, c'est toi qui commence. Tu joues un peu de Haydn? Qu'est-ce que je ressens, ou qu'est-ce que je vois, ou qu'est-ce que j'entends, ou qu'est-ce que ça me raconte, hein? Noé, vas-y.
C'est difficile de donner de mettre des mots.
Attention, je te demande pas de décrire la musique, je te demande de décrire ce que tu ressens, hein? Ce que ça t'évoque.
Est-ce que tu veux qu'on décrive précisément ce qu'on a entendu, c'est-à-dire qu'on mette l'accent sur ce qui vient d'être fait ou sur la musique de Haydn, ce qu'elle nous fait quand elle est jouée, quoi.
Ah non, sur ce qui vient d'être fait, là.
Sur ce qui vient d'être fait, ouais, précisément.
Oui, oui. C'est pas ton interprétation de Haydn, hein, c'est ce qui vient de jouer.
Mm-hmm. Ça m'évoque beaucoup de choses, oui. Il y a beaucoup d'énergie, une certaine finesse, de l'élégance, presque de l'humour par moment. Et puis par-dessus tout, c'est l'énergie rythmique là-dedans qui prédomine, qui fait que le corps participe à l'écoute.
Mmh. Raphaël,
pour moi, c'est un amoureux qui est tout fier parce qu'il vient de gagner ce qu'il voulait, quoi, l'amour de l'autre.
D'accord.
Donc il se sent plus, quoi.
Alors, maintenant, on va demander à Alexis, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, cette musique, ce début, cette entrée dans ce concerto de Haydn?
Comme sentiment, c'est surtout quelque chose de fier.
mais c'est élégant aussi. Alors c'est comme, comment on l'appelle, les Joker en anglais, qui faisait des jeux pour le roi, je ne sais pas quoi. Ouais, qu'il commence.
Les bouffons.
Ouais, qu'il commence à faire son...
On en a plein ici. Ça tombe bien. Ça n'exprime pas qu'une chose, cette phrase, non ? Il y a un caractère général, mais ça exprime plein de choses à la fois. Enfin, et puis, il y a un discours là-dedans. Donc, ce n'est pas toujours le même mot. Il n'est pas toujours en train de dire le même mot. Entre ça, qui est très élégant, et qui une espèce d'arabesque, et ça. Différence de caractère, on n'est pas du tout, ça ne dit pas la même chose. Et puis, ce qui suit, c'est encore deux choses complètement différentes. Haydn prend le violoncelle pour des timbales, là, d'abord. Et ensuite, il rappelle cette tête de thème. Qui va plutôt vers l'élégance, alors qu'il a presque fait un tambour une mesure avant. Non, c'est ça qui fait que ça parle, c'est que ça change tout le temps. Si c'était toujours le même mot, ça ne parlerait pas. Ce qui peut être le cas dans certaines musiques, bien sûr. Chez les minimalistes américains, par exemple, on reste sur le même accord pendant un temps énorme. Et c'est fait pour rentrer dans une espèce de transe. Du fait de répéter tout le temps le même accord, justement. C'est complètement un autre propos. Là, il y a un discours. Valéna, joue-nous quelque chose. Et nous, on écoute, on ouvre vraiment... À la fois, on ouvre nos oreilles et aussi on ouvre notre cœur. C'est-à-dire, soyez sensibles à ce qui est dit.
Sorte d'espoir, et à chaque fois on retombe en fait, et ça se continue. À chaque fois, c'est plus, on va un petit peu plus loin, mais on sait qu'on va pas atteindre le but.
On sait d'avance qu'on y va, qu'on va pas l'atteindre. Ouais. C'est vrai, c'est assez beau comme image. Karine, peut-être tu veux...
Je suis entièrement d'accord avec Noé, c'est vraiment exactement ce que j'ai ressenti. Il n'y a pas d'amertume dans cette résignation, même si ça fait mal.
Là, j'avais juste l'image de quelque chose qui coule sans interruption.
Édouard ?
Moi, en fait, je ressens comme si c'était une douleur intérieure qu'on peut pas, en fait, dire tout haut. Qu'il faut les garder pour soi et qu'on n'a pas le droit de dévoiler.
Alors, pas forcément une douleur, mais en tout cas, ce sentiment de solitude.
Thank you.
solitaire, mais pas isolé. On n'est pas isolé, on est en relation, on est tous reliés. Quand on écoute cette sarabande de la suite en ré mineur de Bach. Alors vous avez vu, ils ont quand même tous transformé ma question « qu'est-ce que je ressens ?» en « qu'est-ce que ça raconte ?» Bon, bah, c'est pas grave, ils veulent parler de ce que la musique leur évoque, allons-y. Alors c'est bien d'ailleurs toutes ces images qui foisonnent dans ces échanges entre nous, ça enrichit leur sous-texte, c'est parfait. Alors on continue. En avant l'imagination, en avant les images, pas celles qu'on voit à la télé bien sûr, hein, celles qu'on se crée soi-même de toutes pièces. C'est Raphaël qui commence, entraîné par Mendelssohn, et les autres qui réagissent. Et qui commence à nous parler de sensations. Tiens, tiens. Alors Julien, qu'est-ce que tu as envie de dire ?
Moi j'ai envie de dire qu'il a fait des progrès hallucinants.
C'est vrai. Édouard, qu'est-ce que ça t'évoque ce Mendelssohn là, qui vient de jouer ?
Bah, moi ça m'évoquait plutôt un numéro de clown un peu muet, ouais. Puis il fait un peu tout en fait, il jongle, il fait rire le public.
Moi, je vois un peu, c'est un peu bizarre, mais c'est de la joie mêlée à de la rage.
Une espèce d'excitation avec plein de monde qui s'agite, comme dans un bal où le bal n'est pas encore commencé, mais tout le monde est réuni, donc tout le monde bouge et est un peu pressé, en fait.
Ouais. Ah oui, moi, je ressens vraiment aussi ça, cette agitation, cette presque jubilation. Il va se passer quelque chose.
Ouais, voilà. C'est comme un feu d'art, enfin, avant un bal. Quoi.
Il va se passer quelque chose. Oui, oui. Valéna ?
J'ai eu l'image d'une danseuse, en fait, qui fait des points, des entrechats, qui s'amuse. Quoi.
Ouais. Alexis ?
Pour moi, c'est quelqu'un qui... C'est le monde intérieur de quelqu'un qui veut dire quelque chose. Il n'a pas encore dit. Et c'est très important, c'est très heureux. Et il est très proche de le dire, il est en train de le dire, mais il est là.
Raphaël ?
Ouais, c'est pareil, c'est la jubilation et beaucoup d'humour aussi. Au début, c'est vraiment la jubilation pure, et après c'est en fait il y a après il y a la même chose plus doucement, je le fais plus doucement, et là c'est plutôt humoristique, enfin, je sais pas si...
D'accord. Tu veux bien nous le refaire, nourri de tout ça, de tout ce qui s'est dit, alors sers-toi d'une phrase de l'un, d'une phrase de l'autre, de tes bien sûr tes idées à toi, tes images à toi. C'est pas forcément anecdotique, c'est pas forcément une histoire qui se tient, bien sûr, c'est pas forcément une histoire, ça peut être des tas de choses. Essaye de te servir de plusieurs éléments comme ça, comme d'outils d'improvisation pour construire ton sous-texte.
Salade spécifique inventée par Minouche. Et c'est... qui a un succès.
En fin de compte, c'est tout simplement l'œuf mimosa. Mais qui est préparé.
Non, il y a de la menthe.
Si, si, il y a.
C'est pas tout simplement. C'est une composition artistique et digne de Minouche.
Touillée à la main.
C'est ça qui est important. C'est pour ça que c'est bon.
Quand on peut se raccrocher à quelque chose, à une image, à un outil comme ça, on est plus à l'aise pour jouer. Hein? Moi, je le ressens beaucoup aussi, ça. Ça m'arrive très souvent quand je travaille une œuvre de me demander de faire ce travail-là qu'on vient de faire, c'est-à-dire je joue une phrase et puis je me demande ce que ça m'évoque, je me force à formuler des choses. On joue, ça évoque quelque chose, on essaye de reformuler, de déterminer, de bien comprendre et affiner ce qu'on ressent, et ensuite, ça nous sert d'outil pour jouer. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a un aller-retour là. Je joue, ça m'évoque quelque chose. Ensuite, l'évocation de cette chose m'aide à jouer. Et puis, petit à petit, j'arrive. J'arrive pas la première fois. Des fois, je le fais avec Karine, parce qu'on travaille, quand j'ai un concerto, c'est Karine qui m'accompagne, on travaille ensemble. Et puis, je me souviens sur le concerto de Neger, on travaillait comme ça, et puis on se demandait, bon alors, qu'est-ce que ça évoque? Et puis finalement, là, ce thème, on est vraiment dans Frank Sinatra, dans les crooners, etc. Et puis on est vite allé acheter tout ce qu'on a pu trouver de Frank Sinatra, il y a ce qu'il faut. Et puis on, on écoute, ah oui, ça c'est exactement le thème de Honegger. Et après, en lisant une biographie de Honegger, je me suis aperçu que juste avant d'avoir écrit ce concerto, il avait fait une tournée aux États-Unis, et c'est exactement dans ces années-là où il a découvert les premiers crooners. C'était un peu avant Sinatra. Et ça arrive aussi qu'en concert, on ne soit pas du tout inspiré par ces fameuses images, par ce sous-texte, etc., et qu'on soit obligé de faire appel, justement, à une autre technique, qui est celle de prendre les choses par l'extérieur. Alors là, je contrôle mon crescendo, je fais attention à la manière dont j'amène cette phrase-là, je sais que là, il ne faut pas que j'aille trop loin, que là, il faut que je me détende parce qu'il y a le climax qui arrive, et à ce moment-là, il arrive, et je crée la chose de toute pièce, ce qui est complètement jubilatoire, d'ailleurs, à faire, parce qu'on se sent parfaitement en contrôle, dans le contrôle de la situation. Et à ce moment-là, il y a une émotion qui arrive. On la crée par l'extérieur. Et puis à un autre moment, dans le même concert, et peut-être la phrase d'après, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est en agissant sur l'intérieur.
Quand tu nous dis que c'est artificiel, c'est-à-dire que moi je reste vraiment dans l'extérieur et du coup ça provoque rien, c'est ça ? J'essaye de faire mon crescendo et...
Quand je te dis que ça sonne artificiel, c'est comme tu dirais, toi, un comédien, que ça sonne faux.
Ouais.
Alors ça peut être trop, ça peut être pas assez, c'est pas, y a pas de règle.
D'accord.
Hein? C'est soit que c'est pas vécu, soit qu'il a pas fait les bons gestes.
D'accord. Mais on peut avoir la volonté de faire ce geste et de le créer, même si on le... De toute façon, on ne le sent pas forcément sur commande.
À condition que ce soit une manière d'amener un sentiment, parce que je te vois venir, te connaissant. Bon, bah, c'est bien, c'est cool, je vais apprendre tous les gestes, comment il faut les faire, je vais faire ça et ça devrait marcher. Mais non, si tu n'as pas la volonté de faire attendre cette note-là, ça va faire, ça va créer un désir du temps suivant qui va procurer en toi une émotion et surtout qui va la procurer à ceux qui t'écoutent, ça marche. De toute façon, le public est témoin à un point que vous ne pouvez pas imaginer de ce que vous vivez quand vous êtes sur scène. Quand vous êtes sur scène, le public vous voit comme si vous étiez transparent. C'est ça qui est difficile d'ailleurs quand on est sur scène, c'est d'accepter qu'on nous voit, qu'on voit notre monde intérieur, pas nos vêtements. Hein. C'est vraiment très très profond ce que le public voit. Vous n'avez pas idée. Donc si votre attention à vous, elle est portée sur vos doigts ou sur votre archet, le public ne verra que ça aussi. Si votre attention est sur l'émotion propre, le public ressentira cette émotion. À condition, bien sûr, qu'il soit ouvert, réceptif, en état de recevoir, ce qui n'est pas toujours le cas quand on écoute un concert, et à condition que vous aussi, vous ayez un corps assez libre pour transmettre ce que vous avez à l'intérieur. Voilà, j'espère que j'ai bien troublé vos esprits et que ça ne va pas trop vous empêcher de digérer le petit dîner que Minouche nous a préparé. Elle est bien nourrie. Vous l'aurez compris, toutes les nourritures sont importantes au moulin du bien nourri. Alors, difficile de dire ce qu'on ressent, de parler d'émotions, difficile d'être à l'écoute. On a vite fait de mettre des mots sur les choses et hop, elles disparaissent de la circulation. À un moment quand même, Noé et Julien se sont mis à parler de jubilation. Alors, jubilation, excitation, vibration, on peut pas forcément mettre des mots là-dessus, sur ce que nous procurent les sons, sur ce que nous procurent les rythmes. La musique exprime l'indicible, mais ce qui est indicible n'est pas forcément inchantable.
D'accord ? Vas-y. Avec plus de fantaisie. Plus espiègle. Tu sais être espiègle. Allez-y. Tu fasses plus le contraste entre tout petit et tout sec, et puis qui est grand, large et crémeux. Allez, vas-y. Maintenant. Mais tu chantes pas ça. Sol si la do fa la sol mi sol fa la re fa mi. Si sol si la do fa la sol mi
Sol, si, la, do, fa, la. Sol, si, mi, sol, fa, la, mi, fa, mi, sol.
Sol, sol si, la, do, fa, la, sol, si, mi, do, fa, la. Bon, c'est difficile à chanter, je t'accorde. Ouais, ouais. Fa, fa, la, la, do, trop. Continue, si, la, sol, fa, mi, sol. Param, dirpim, pim, tarim, dirpim, pirolim. Appoggiare, si deve appuyer, hein. Oui. Hey.
Ta 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 ya ta 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 ya ta ta ta.
Amuse-toi plus des syncopes, plus d'énergie. Bam ta 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 ta
ta ta ta ta ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. L'énergie, tu dois donner sur syncope, sur la syncope. Ça y est. Bar, ta, ta.
Bar, ta,
ta.
Bar, ta,
ta. Bar, ta, ta. Ta, 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 ta, ta. Et là, j'ai pas entendu les accords à la fin. Avec humeur. Vas-y. Bah, c'est quoi ces accords là? Encore. J'ose pas imaginer comment tu vas les jouer si tu chantes. Ouais, viens en scène. Ben oui, on était parti avec l'idée de travailler sur quelque chose de très calme. On était sur l'introspection, l'écoute. Et je pensais les attirer dans un sujet des plus profonds. Et voilà qu'on est tous en train de swinguer dans une sonate de Jean-Louis Duport pour finir la journée. Bon, et ben décidément, le professeur amateur que je suis n'a pas fini d'en voir de toutes les couleurs. C'était Jean-Pierre Collard, le chef d'orchestre de l'émission, avec à ses côtés Jean-Marie Porcher, Hervé Desjardins et Pascal Bénard au mixage. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter sur francemusique.com et même nous faire des petits commentaires sur le blog du Moulin, dont vous trouverez le lien sur le site de l'émission. Alors, on ne le dira jamais assez. Un grand merci à Minouche et Hervé pour leur hospitalité, leur générosité, leur amitié. Et un autre merci plein d'admiration à l'accompagnatrice de nos apprentis, celle qui, de nous tous, est le plus à l'écoute de la musique, l'attentive Karine Cello. Il est maintenant la bonne heure de retrouver Dominique Boutel. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain à 13h sur France Musique. Et d'ici là, amusez-vous bien.